Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 2 ans après, Emmanuel Macron et François Hollande saluent la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Hommage aussi des musiciens d'Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait au Bataclan le soir de l'attaque. Le reportage de Mathieu Mondoloni dans un instant. Quelle politique de la ville pour le nouveau quinquennat? Le chef de l'État s'est rendu en Seine-Saint-Denis puis dans les Hauts-de-France pour exposer ses priorités. Les départements ont besoin d'aide pour faire face à la pauvreté et à l'afflux de mineurs isolés. Nous en parlerons avec notre invité Jean-René Lecerf, qui préside le Conseil départemental du Nord. Face au réchauffement climatique, 15 000 scientifiques du monde entier lancent un cri d'alarme. Il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous verrons cela avec Véronique Robérotte. C'était il y a 2 ans, la terreur islamiste frappait la France en son cœur, 130 morts et 350 blessés. Du Stade de France au Bataclan, en passant par plusieurs terrasses parisiennes, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, Casa Nostra, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe. Emmanuel Macron et son prédécesseur François Hollande ont rendu un hommage officiel aux victimes, dont les noms ont été égrenés dans un silence recueilli. Et puis il y a eu cet hommage inattendu, celui d'Eagles of Death Metal, les rockers américains qui jouaient au Bataclan le 13 novembre 2015. Ils étaient à Paris aujourd'hui pour un concert surprise à l'initiative de l'association Life for Paris. Le reportage de Mathieu Mondoloni.
Le vendredi 13 novembre 2015, ils se produisaient au Bataclan. Aujourd'hui, c'était sur la petite scène improvisée devant la mairie du 11e arrondissement. Le chanteur et le guitariste des Eagles of Death Metal ont joué 2 morceaux dans une très grande émotion. Jesse, le chanteur, était en larmes. « Je vous aime », a-t-il répété plusieurs fois aux rescapés, aux familles des victimes, avant de leur distribuer des roses blanches. Une fleur que tient dans les mains Audrey, survivante du Bataclan, encore émue de cette cérémonie et de ce concert surprise. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est le lâcher de ballon, qui, comme l'année dernière, terminait cette cérémonie.
On a lâché le ballon à 5. C'est chaque fois un petit peu de légèreté en plus qui vient, en tout cas.
De la légèreté et du lâcher prise, pour laisser s'envoler la colère, mais surtout sans oublier, ajoute Yann, lui aussi rescapé du Bataclan.
Les États-Unis ont leur 11 septembre, je pense que la France a son 13 novembre malheureusement, et je pense qu'il ouais, faut pas oublier. Nous en tant que victimes, on n'oublie pas, c'est certain, mais j'ai envie aussi que tous ensemble, tout le pays, n'oublie pas cette date-là qui revêt une valeur très importante.
Ne pas oublier, se souvenir des absents et se retrouver entre vivants, c'est ce que souhaite l'association Life for Paris qui a organisé cette cérémonie et qui a d'ores et déjà donné rendez-vous à ses membres le 13 novembre 2018.
Mathieu Mondoloni, merci. Le procureur fédéral de Belgique, Frédéric Van Leuve, juge possible que l'attaque avortée du Thalys, les attentats de Paris, puis ceux de Bruxelles en mars 2016, tous ces attentats relèvent d'une seule opération de l'État islamique. En clair, selon le magistrat belge, les djihadistes impliqués dans ces différentes attaques faisaient sans doute partie de la même cellule terroriste montée par Daesh. Après avoir salué la mémoire des victimes du 13 novembre, Emmanuel Macron s'est rendu en Seine-Saint-Denis pour défendre sa politique de la ville. Le président s'est longuement arrêté à Clichy-sous-Bois, ville symbole des émeutes de 2005 après la mort de Zied et Bouna. Le président qui a visité plusieurs quartiers rénovés ou bien en attente de l'être. Le reportage de Louise Baudet.
Un accueil chaleureux à défaut d'être inédit. Entre les petits collectifs flambant neufs du quartier du Plateau, les enfants scandent le nom du président. L'ambiance est excellente. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron a improvisé une première étape entre les tours lugubres du Chêne Pointu. Le maire Olivier Klein fait office de guide.
Ouais, mes parents ont acheté là en 65, 66 sur plan. On leur avait promis un métro et une autoroute et il n'y a ni le métro ni l'autoroute. 50 ans après.
Ici, les attentes sont immenses.
Tu fais des tours dans les tours des bâtiments, tu trouves des bordels partout. On n'a plus d'ascenseurs, rien qui fonctionne.
Et la venue du président est appréciée.
Lui, il s'est arrêté, il nous a écoutés.
Il avait 10 ans, il
c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment ouais. Un pas déjà.
Emmanuel Macron, très attendu sur la future ligne 16 du métro qui était menacée.
Sur le métro, on va tenir le délai. Parce que c'est vrai que là, dire qu'on finit tout en 2030,
non,
c'est trop long.
Oui, et même ça nous rassure de vous entendre dire ça ici.
Le président évoque aussi son dispositif emploi franc de soutien à l'embauche des habitants des quartiers.
Ça a été voté, je le confirme. On le fera dans une quinzaine de quartiers dès le 1er janvier prochain. Pour ceux qui ont un CDD de plus de 2 ans ou un CDI, il y aura une aide substantielle à l'employeur. Donc ça va être un booster formidable pour leur emploi parce que moi je crois que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront.
Mais il n'y aura pas plus d'annonces ce soir. Aujourd'hui, c'était l'image. Le son, ce sera pour demain dans les Hauts-de-France.
Louise Baudet et le maire de Clichy-sous-Bois, le socialiste Olivier Klein, a été nommé à la tête de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, dont la dotation a été doublée par le gouvernement à 10 milliards d'euros aujourd'hui. Après Clichy-sous-Bois, Emmanuel Macron a pris la direction des Hauts-de-France pour promouvoir sa politique de la ville. Le chef de l'État a rencontré tout à l'heure les élus régionaux, dont notre invité Jean-René Le Serre, président d'Hiver Droite du Conseil départemental du Nord. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-René Le Serre, il y a, je crois, 350 000 allocataires du RSA dans votre département. Est-ce que vous avez été rassuré par les engagements d'Emmanuel Macron en matière d'aide sociale ?
En tout cas, le président a fait preuve de beaucoup d'écoute. Il nous a un peu rassurés sur la manière avec laquelle allait être géré ce que l'on appelle les allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap, et surtout sur les moyens qui nous seraient donnés pour faire face effectivement à nos responsabilités. Alors nous avions très peur effectivement des dernières décisions qui avaient été prises par la loi de programmation sur les finances publiques, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir des dépenses qui évoluaient de plus de 1,2% en moyenne, inflation comprise, c'est-à-dire qui n'évoluaient pas du tout. Il nous a dit que dans le cadre de la contractualisation qui se ferait avec les grandes collectivités territoriales, les difficultés des uns et des autres seraient pris en compte, que les efforts réalisés depuis le début de notre mandat seraient également pris en compte, ce qui était quand même un peu rassurant par rapport aux perspectives qui étaient les nôtres.
Ça veut dire que votre dotation va augmenter si le nombre d'allocataires du RSA venait à augmenter ?
Ça veut dire surtout que ce qu'il pourrait y avoir, c'est une, non pas, si vous voulez, la recentralisation du financement du RSA, ça il y a très longtemps que nous ne le souhaitons plus, mais ce qu'il pourrait y avoir, c'est une prise en compte par l'État de la différence entre les départements plus avantagés et les départements les plus pauvres, et que notamment, pour toutes les dépenses qui excèdent les moyennes nationales, l'État en prenne sa juste part. C'est un peu ce que j'avais réclamé comme président du Nord avec mon collègue du Pas-de-Calais et ce qui avait été entériné par l'Assemblée des départements de France, qui était une participation de l'État qui nous permet effectivement d'envisager sur le moyen terme, à tout le moins, l'équilibre de nos collectivités.
Jean-René Le Serre, est-ce que la diminution des emplois aidés vous inquiète au niveau de votre département ?
Bien sûr, elle nous inquiète. Bien sûr, pourtant, nous admettons, si vous voulez, l'analyse qui a été présentée par le Premier ministre lors du congrès des départements à Marseille, consistant à dire effectivement que le contrat aidé dans le secteur non marchand, c'est-à-dire dans les communes ou dans les associations, n'était pas un mode pérenne d'accès à l'emploi, et nous en sommes conscients. Donc nous sommes bien conscients qu'il faut faire des efforts sur la formation professionnelle, notamment pour que cette opportunité soit une opportunité durable pour les personnes les plus fragiles. Mais nous avons dit au président que nous estimions qu'il y avait beaucoup de brutalité dans la réforme. Par exemple, l'arrêt total des contrats initiative emploi, autrement dit les contrats aidés cette fois-ci dans l'entreprise, lesquels donnaient d'assez bons résultats, puisque dans mon département, 70% de ceux qui étaient passés par ce type de contrat initiative emploi aboutissaient à un emploi pérenne, que l'arrêt brutal était tout à fait regrettable et que nous souhaitions que des solutions soient trouvées en partenariat avec les départements pour pouvoir au moins en partie prolonger cette incitation à l'emploi pérenne. Tout simplement, je crois que lorsque le gouvernement met en place de nouvelles politiques, et il a raison de mettre en place ces politiques nouvelles pour lesquelles il a été élu, il ne faut pas qu'il supprime trop vite ce qui existait, sinon on a effectivement un effet catastrophe entre le hier et demain.
Jean-René Le Serre, les départements français font face actuellement à un afflux sans précédent de mineurs étrangers isolés, des mineurs non accompagnés dans le jargon administratif. Leur accueil est du ressort des départements. Quelle est la situation chez vous dans le Nord ?
Eh bien, on a assisté cette année à peu près à un doublement, et c'est le cas dans un très grand nombre de départements, du nombre de mineurs étrangers isolés. Doublement, ça veut dire effectivement le doublement des places nécessaires, ça veut dire aussi...
Combien ?
Nous dépassons maintenant le millier. Le millier avec des coûts qui sont les coûts de l'aide sociale à l'enfance. Dans les maisons de l'enfance, par exemple, le coût annuel d'un enfant accueilli, qu'il soit étranger ou qu'il soit effectivement français, est de l'ordre de 60 000 euros. Donc ce sont des sommes tout à fait considérables. Donc d'une part, nous ne sommes plus capables de faire face aux défis financiers, et d'autre part, nous n'avons plus ni les places utiles, ni les personnels suffisants pour les prendre en compte. Et le drame, ce que j'expliquais au président de la République, c'est qu'aujourd'hui, comme nous sommes condamnés par les tribunaux à accueillir et à héberger ces mineurs étrangers isolés sous peine d'astreinte, et des astreintes qui peuvent aller jusqu'à 500 euros par jour de retard, eh bien, nous leur donnons la priorité, ce qui fait que j'ai par exemple dans le département du Nord 200 jeunes nordistes qui devraient être protégés par l'aide sociale à l'enfance et qui sont donc en danger, y compris dans leur famille, et que nous ne pouvons pas accueillir immédiatement en prenant des risques tout à fait considérables vis-à-vis effectivement de leur sécurité.
Est-ce qu'il y a un doute sur la qualité de mineurs de certains de ces jeunes migrants ?
Oh, je suis même tenté de dire que sur un grand nombre d'entre eux, il n'y a aucun doute. Ils sont considérés comme mineurs, ils ont été évalués majeurs, considérés mineurs par le juge, parce que le juge se trouve dans la quasi-obligation juridique d'appliquer des documents qui sont des documents étrangers qu'il s'estime ne pas être compétent pour apprécier. Et j'ai chez moi des mineurs qui ont dépassé la trentaine, ça me paraît à peu près évident. Ça aussi, c'est un point que nous avons exposé au président en déclarant notamment que la présomption de minorité qui est appliquée par le juge alors qu'elle n'existe pas dans les textes, cette présomption de minorité doit absolument disparaître.
Est-ce que vous avez été entendu par Emmanuel Macron sur le sujet ?
Pardon ?
Est-ce que vous avez été entendu par Emmanuel Macron sur le sujet ?
Et c'est pas la première fois d'ailleurs que nous sommes entendus par le président sur ce sujet, puisqu'il nous a précisé en ce qui me concerne, c'est la troisième fois qu'il répond de la même manière aux questions que je lui pose sur ce point. Il nous a reprécisé qu'il estimait que le déferlement du phénomène migratoire actuel faisait que le problème des mineurs étrangers isolés était un problème qui devenait une compétence régalienne, que l'État devait reprendre, mais bien sûr, il ne peut pas le reprendre du jour au lendemain, donc il nous demande un peu de patience et puis la complémentarité que nous sommes bien évidemment prêts à apporter au service de l'État, tout en déclarant qu'il n'a pas changé d'avis, que dans un premier temps, l'État reprendra la compétence jusqu'à l'évaluation du mineur, comme mineur ou comme majeur, et que dans un deuxième temps, aussi longtemps que durera cette période d'inflation migratoire, cette compétence devrait être reprise par l'État. Maintenant, nous attendons que ces promesses se traduisent effectivement dans la réalité, mais on sait très bien que pour cela, il faut des changements législatifs, il faut des changements réglementaires, et que ça prendra un certain temps. Or, il y a des problèmes de sécurité qui imposent d'aller vite. Je vous dis, Monsieur le Président, souvent, on vous
très rapidement, Monsieur Le Serre,
là, on vous demande d'accélérer, quoi.
Merci beaucoup, Jean-René Le Serre, président du Conseil départemental du Nord. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est une initiative inédite sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique. 15 000 scientifiques de 184 pays lancent ensemble un cri d'alarme. Si rien n'est fait pour limiter la hausse des températures, la sécurité humaine sera rapidement en jeu. Véronique Rebérotte, les scientifiques sont d'autant plus inquiets que les émissions mondiales de CO2 vont battre cette année un nouveau record après une brève accalmie.
Oui, alors malgré les records climatiques que l'on a connus ces dernières années, années les plus chaudes, phénomènes climatiques d'ampleur, incendies géants dus à la sécheresse ou encore cyclones comme Irma avec des rafales de vent de près de 400 km/h, on espérait quand même que les émissions de CO2 étaient enfin stabilisées. 3 ans que la durée, 2014, 2015, 2016, les émissions de CO2 n'ont pratiquement pas bougé, laissant penser que la décarbonisation de nos économies mondiales avait commencé, que le monde avait atteint son pic d'émissions de gaz à effet de serre avant d'amorcer une baisse. Déception, écrivent les auteurs de cette nouvelle étude, réalisée par des scientifiques donc du monde entier. Les émissions de CO2 repartent à la hausse avec un principal responsable, la Chine. La Chine, elle seule, génère 28% des gaz à effet de serre. Ces dernières années, elle avait permis d'améliorer en fait la situation du climat en réduisant son recours au charbon. Or, récemment, sa consommation de charbon a repris, tirée sous l'effet du boom de sa production industrielle et une diminution aussi de sa production d'hydroélectricité. Le charbon a remplacé l'hydraulique en panne à cause de sécheresses répétées dans le pays. Responsable aussi de cette augmentation d'émissions, les États-Unis, deuxième pollueur au monde, qui voit sa consommation là aussi de charbon en hausse. Washington aussi, depuis l'élection de Donald Trump, ne se sent plus vraiment, il faut dire, concerné par le climat. Alors avant le début de la COP23 qui se tient en ce moment à Bonn, une autre synthèse scientifique venait alerter sur l'insuffisance des engagements pris durant l'accord de Paris, donc fin 2015, pour contenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 degrés d'ici la fin du siècle. Cette alerte solennelle, donc signée par 15 000 scientifiques, c'est presque du jamais vu, c'est arrivé une seule fois, pour dire qu'il sera bientôt trop tard, eh bien elle devrait logiquement ne laisser personne indifférent, à part peut-être Donald Trump.
Véronique Rebérotte, merci. On passe du climat au temps demain, qui sera plus calme en général, mais le ciel restera gris sur la moitié nord, avec encore un peu de neige en montagne. Au sud, le soleil s'imposera, mais le temps sera variable dans le sud-ouest. Température maximale demain après-midi, 6 à 12 degrés en général, jusqu'à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.